À la Croix-Rouge française, nous pensons que toutes les vies sont fragiles. Elles peuvent être bouleversées par une catastrophe, un accident, une rupture, une maladie, des violences. Les enjeux climatiques renforcent ces meurtrissures de l'humanité et révèlent les liens avec celles de la planète. Nous partageons cette vulnérabilité entre personnes humaines, mais aussi avec notre environnement. L'attention aux plus vulnérables, aux plus pauvres, aux plus seuls, aux plus fragiles, n'est pas qu'un devoir humaniste. Il s'agit d'un enjeu de survie collective. Chacun peut jouer un rôle, chacun doit jouer un rôle. Cliché depuis la saison 1 veut combattre les idées reçues et déconstruire les préjugés que nous avons sur les personnes vulnérables et sur celles qui les accompagnent. Prendre conscience de notre propre vulnérabilité, c'est mieux comprendre celle des autres et cela permet de trouver avec et pour eux comment agir. Sortir des clichés, c'est découvrir qu'il n'y a pas besoin d'être un héros pour passer à l'action. Je suis Sophie Bakker et je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Clichés, le podcast de la Croix-Rouge française et Louis Média. Dans cette quatrième saison, vous entendrez le témoignage de volontaires ou de salariés de la Croix-Rouge qui, au quotidien, s'engagent, innovent et proposent des solutions pour aider les personnes en situation de vulnérabilité, là, juste à côté de chez vous. Dans ce premier épisode, nous allons à la rencontre de Fabienne Berquier. Après avoir été directrice d'hôpital à Arras, elle s'engage à la Croix-Rouge et devient pendant un an vice-présidente en charge des établissements. Depuis 7 ans, elle est présidente de la délégation territoriale de la Croix-Rouge dans le Pas-de-Calais. Elle va nous raconter pourquoi être sur le terrain et gérer les situations d'urgence est devenu son engagement quotidien.
L'idée, c'est de redonner du sens à la vie de tous les jours dans un contexte où c'est épouvantable, il n'y a plus rien. On n'a plus de maison, on n'a plus le droit de rentrer dans sa maison. C'est assez impressionnant de se rendre compte qu'on est capable de faire rire alors qu'on a tout perdu. Je suis Fabienne Berquier, je suis du Pas-de-Calais, j'ai 68 ans. Je suis retraitée de l'hôpital et je me suis engagée dans la Croix-Rouge française il y a 8 ans. D'abord dans un poste de vice-présidente et après comme présidente de la délégation territoriale du Pas-de-Calais. Je suis une personne en situation de handicap. Quand j'ai découvert mon handicap, je venais de terminer mes études. J'ai fait des tests et c'est là où on s'est rendu compte que ma surdité allait arriver avec le temps. Donc déjà en premier emploi, écrire sur un CV handicapé. Moi je sais que quand je suis arrivée, on m'a présenté à mon directeur à l'époque sur mon premier emploi. Et le directeur s'adresse au RH, il fait « C'est quoi ça ?» Alors il dit « Ben, c'est celle qui remplace telle personne. » Il me dit « Mais c'est pas possible, moi il me faut un homme. » Donc ça a démarré comme ça. Je me suis dit, si en plus je suis nana et en plus je dis que je n'entends pas bien et que je suis handicapée, ça va être une catastrophe. J'avais même pris des cours pour apprendre le langage des signes en me disant, mais si vraiment un jour je suis sourde, au moins je pourrais encore discuter et parler. Jusqu'au moment où moi, j'ai pu réussir à gérer. J'entendais plus mes touches d'ordinateur, j'entendais plus mon chat ronronner. J'étais épuisée le soir en rentrant. Ça a duré pendant 20 ans. Et puis, j'ai découvert une clinique exceptionnelle où j'ai trouvé un chirurgien exceptionnel qui a dit, mais attendez, à votre âge, on peut arrêter, pas améliorer, on peut juste arrêter la chute. Donc, je me suis fait opérer et je suis toujours appareillée. Maintenant, je dis que je suis handicapée parce qu'il faut que les gens le sachent. D'abord pour comprendre pourquoi je ne réagis pas aussi rapidement que d'autres personnes. Et puis, je vais aussi expliquer à des personnes qui aujourd'hui ne le disent pas que ce n'est pas parce qu'on dit qu'on est handicapé que la carrière est brisée et que tout va s'arrêter. Au contraire, il faut y aller. On est certainement plus battant encore que les autres parce qu'il faut qu'on passe des épreuves. Ça renforce parce qu'il faut qu'on prouve justement en permanence. J'arrive à l'hôpital d'Arras en 2008 pour faire des économies, sans connaître du tout l'hôpital. J'ai d'abord été vue comme une financière, comme une tueuse. Du coup, il a fallu vraiment faire des opérations de séduction, en disant que j'allais pas toucher aux ressources humaines, j'allais pas toucher aux moyens de travail. Donc du coup, je me suis dit, il faut peut-être que je fasse quelque chose pour comprendre l'hôpital. Et effectivement, j'ai fait un stage d'un mois à l'hôpital avec les urgentistes. Il faut être présent, il faut être sur le terrain, il faut discuter. Donc ça aussi, c'était intéressant parce que ça permet de savoir ce dont les gens ont besoin, quand ils en ont besoin, qu'est-ce qui se passe la nuit, le jour. Le regard a changé par rapport au moment où je suis arrivée, où il fallait faire des économies. Je me suis rendu compte qu'il y avait un patient dans le lit, que le patient, il fallait qu'il soit bien et qu'il puisse sortir dans de bonnes conditions. Le patient amène une dose d'humanité assez impressionnante. On ne peut pas le négliger. Quelquefois, ça fend le cœur de voir des personnes alitées, des enfants. Quand on faisait le Noël des enfants et que tous les enfants arrivaient avec leur bouteille d'oxygène pour voir le Père Noël, c'était des moments très intenses. Je vois des patients dans des lits, mais je vois aussi des soignants en souffrance. Alors pas la souffrance dont on parle très régulièrement, la pression au travail, parce que ça fait partie de la vie d'un soignant. C'est surtout la pression d'un soignant qui a des difficultés parce que le poste n'est pas adapté. Parce que l'hôpital, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc c'est une forme d'engagement qui est sans limite. Il faut toujours être là, il faut toujours être prêt. On ne regarde même pas le temps qu'on passe. On ne peut pas couper une conversation avec un patient qui veut vous parler. On ne peut pas dire « j'ai pas le temps, je m'en vais », même si de temps en temps on aimerait bien. Alors je m'engage à 200%. J'ai appris à faire des gardes, ce que je ne connaissais pas. Moi qui suis une grosse marmotte ascendant ours, quand on me dit « maintenant c'est ton tour de garde », je me disais « mais j'arriverai jamais à me réveiller ». Et en fait si, on se réveille. Parce que c'est sa responsabilité, c'est son engagement de prendre en charge quelque chose qui ne va pas et qui nécessite qu'il y ait une décision rapide. Le pire des choses, c'est rester dans le flou, de ne pas savoir, de laisser les gens avec des « qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ?» L'hôpital oblige à prendre des décisions toujours dans l'urgence. J'ai eu des gardes sur des fusillades dans une mosquée. J'étais de garde au Thalys, j'étais de garde au Bataclan. Et d'autres événements de ce type-là qui engagent du temps, des décisions, des reportings très rapides pour prendre en charge la population. C'est des événements où on a le matériel pour intervenir, mais on est quand même dans une énorme inconnue. C'est ça aussi qui est l'adrénaline, c'est être prêt en attendant l'imprévisible. C'est pas bien de dire ça parce qu'on est dans des situations avec des victimes, mais oui. Moi, j'aime ce genre de mission parce que c'est l'imprévisible qui nécessite de prendre des vraies décisions. Du coup, ça oblige à être en permanence au courant, de s'interroger, de se poser des questions. J'aime bien ce coup d'adrénaline, ça me tient. Et j'ai toujours vu des Croix-Rouges. Moi, au Thalys, la Croix-Rouge était là. Bataclan, bien sûr, elle était là aussi. Et je me disais, mais finalement, ils sont bien, ils sont bons, ils sont bienveillants, ils sont disponibles. Quand tout était terminé, tout le monde remballait. On se disait au revoir, comme si on se connaissait depuis des années, et puis on se retrouvait dans d'autres situations. Je pensais au bénévolat à la J-1 avant la retraite. Je me dis, oh là, mais l'âge de la retraite arrive, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie de tous les jours? Parce que ça va être un crash test si t'arrêtes du jour au lendemain et que c'est rien. Donc je savais que je pouvais pas passer de 24 heures sur 24, 365 jours à rien. Et je me suis dit que la Croix-Rouge, c'était quand même pas mal, quoi. Ça ressemblait un peu, pas dans le même contexte, mais accueillir les plus démunis, comme on le fait à l'hôpital public. Et puis la possibilité d'ouvrir le champ des possibles en démarrant une autre activité. Ça, c'était extraordinaire. Tu arrivais par hasard autour de table, j'étais à un dîner. Quelqu'un dit « Oh là là, la Croix-Rouge, ils ont du mal à recruter des présidents. » Moi, j'ai dit « Ben moi ». Et puis finalement, j'ai eu un coup de fil. On crée les régions. Les régions n'existaient pas avant. Et dans les régions, on a dit « Bah tiens, puisque tu étais à l'hôpital, il y a des établissements à la Croix-Rouge. Est-ce que ça t'intéresserait de venir à la région et être en charge des établissements de santé ?» Et j'ai dit oui, tout de suite. Je n'ai même pas réfléchi. Je suis restée vice-présidente en charge des établissements un an. Un an parce que le poste de la délégation territoriale qui avait été donné à un président, qui ne connaissait rien à la Croix-Rouge, devient vacant du jour au lendemain. Et moi, je me dis, mais moi, je veux bien faire l'intérim. J'ai pris l'intérim 3 ans et je ne suis jamais repartie. Parce que c'était opérationnel. Parce qu'on était sur le terrain, parce qu'il y avait des beaux projets qui étaient développés par les unités locales. Il y avait 1040 bénévoles, donc c'était un challenge. C'était aussi un challenge parce que je connaissais personne et personne ne me connaissait. Donc c'était beaucoup d'humilité, beaucoup de respect par rapport au président qui était déjà en place et qui faisait des choses incroyables. Ce qui était intéressant avec tous ces présidents qui étaient là depuis un moment, c'est que c'est eux qui m'ont appris ce qu'était la Croix-Rouge opérationnelle, c'est-à-dire proche des bénéficiaires, avec des projets nouveaux. en permanence. Et après le deuxième mandat, là, je me suis présentée comme présidente. Et j'ai été élue comme présidente. Donc là, les présidents m'ont choisi. J'étais super contente, même si j'étais la seule à avoir postulé au poste de président. Mais ils auraient pu s'abstenir. Mais ils ont dit oui. Vous avez besoin de quoi? Je vais aller vous le chercher. Donc c'est un petit peu comme ça que j'ai planté le décor. On a développé au niveau de la délégation territoriale d'autres projets pour permettre aux unités locales d'avoir ce qu'elles n'avaient pas. La gestion de projet, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est, on démarre de zéro et au bout, on a quelque chose. On a créé quelque chose. Pour que les projets soient cohérents, il faut forcément qu'ils soient connectés à un besoin du terrain. Sinon, ça n'a pas de sens. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui invente un projet en me disant « on verra ». Je suis plutôt quelqu'un qui dit « il y a ça, on va faire ». Parce que sinon, on passe trop de temps à imaginer un super truc et puis personne ne l'utilise. L'avantage de la Croix-Rouge, c'est que le fait d'être sur le terrain, d'être proche des bénéficiaires, de voir des nouveaux bénéficiaires arriver qu'on n'imaginait même pas, on a toujours cette connexion avec le terrain. Un porteur de projet, pas un super-héros. Un porteur de projet, c'est juste quelqu'un qui s'est regardé, écouté et transformé ce qu'il a vu et ce qu'il a entendu en quelque chose de cohérent. Alors le principe de la gestion de projet, c'est qu'on est quand même dans l'inconnu. Surtout quand on est dans une association comme la Croix-Rouge. On ne sait pas exactement comment ça va réagir au bout du bout. Dans la mission d'urgence, l'idée c'est de se préparer, parce qu'on est obligé de se préparer. Mais on part dans un inconnu. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc on est dans l'observation au quotidien. Quand on voit arriver dans un centre d'hébergement d'urgence des chiens et des chats et qu'on se dit qu'on n'a pas de croquettes, c'est pas de l'innovation, mais c'est de se dire où on trouve des croquettes quand on peut pas circuler. Ça paraît bête, mais c'est hyper stratégique parce que l'animal de compagnie, c'est super important. Donc l'innovation, oui, vient de ce qu'on observe, vient de l'expression des sinistrés qui dit « j'ai besoin de ça ». On est en octobre 2022. Billucourt, c'est une petite commune rurale. C'est tellement petit que personne ne connaît. Et la tornade a décidé de passer à Billucourt. Donc on envoie une équipe pour voir ce qui se passe là-bas. Il y a des gravats partout, des arbres qui sont tombés. L'équipe nous dit que la moitié du village est détruit. Donc on monte un centre d'accueil des impliqués. Il fait encore noir, il est 6h du matin. Et puis on voit arriver les habitants un peu mode zombie. Il y a un silence de mort et tout le monde converge vers la mairie. Mais quand je dis tout le monde, c'est presque 400 personnes. On est dans plein secteur rural, la mairie est toute petite et on est très vite débordé. Il n'y a plus internet, il n'y a plus d'électricité. Ça devient compliqué. Donc on sort et devant la mairie, on met notre centre d'accueil. Et les gens viennent nous voir pour prendre du café, pour essayer de se poser un peu par rapport à ce qui s'est passé. Et il y a une maman qui arrive, elle dit « Est-ce que vous avez des vêtements ?» On leur dit « Ben non, mais on va venir des vêtements. » Donc on monte une tente. Et alors là, il y avait une montagne de vêtements. Et du coup, c'était trop petit, on monte une deuxième tente. Donc on est à trois tentes là. Et à un moment donné, une personne arrive en disant « J'ai pas de lait en poudre pour mon bébé. » Et on monte une quatrième tente et on met tout ce qu'on trouve, de l'eau, du lait, des gâteaux. Ça dure une semaine comme ça. Et le maire nous dit « Bon, les pompiers en ont marre de manger des sandwichs, on va commander des repas chauds. » Une heure après, on monte la tente et on monte le restaurant. Et on se dit « Mais voilà, on a créé un village solidaire. On est en train de recréer la place du village. On a les vestiboutiques qui finalement sont des magasins de mode. On a le puériculture avec les enfants. On a créé une épicerie. Et puis notre centre d'accueil des impliqués devient le bistrot-restaurant de Billucourt où tous les sinistrés viennent manger le petit déjeuner, le midi et le soir. Vivre 15 jours avec des habitants, il y a un moment donné, tout le monde s'appelait par les prénoms. Puis un matin, je bois mon café comme tout le monde, au bistrot. Et je vois trois bénévoles partir à la vestiboutique puis commencer à tester des vêtements. Du coup, je vais les voir, je dis « Mais qu'est-ce que vous faites ?»« Oh, il faut qu'on trouve un pull, mais au moins XL parce qu'il est quand même baraqué, Louis. » Je dis « Mais c'est qui, Louis ?» Puis il dit « Mais c'est un habitant, c'est son anniversaire aujourd'hui. Il faut absolument qu'on trouve quelque chose. » Donc il trouve un joli pull, il trouve un t-shirt, des chaussettes et il passe à l'épicerie. Il trouve un magnifique cake. Louis habitait la rue d'en haut. Et les voilà partis en chantant « Joyeux anniversaire, Louis !» Tout le monde chantait à tue-tête « Joyeux anniversaire !» Et ça déambulait au milieu d'une montagne de gravats avec des maisons détruites. Mais tout le monde était joyeux parce que c'était l'anniversaire de Louis. Et quand Louis a vu arriver tout le monde, déjà, il s'est mis à pleurer. Parce qu'il a dit « Mais c'est la première fois de ma vie que j'ai un anniversaire aussi extraordinaire. » Alors ça, c'était vraiment un moment émotion. Cet anniversaire, c'est comme quand on a gonflé des ballons avec les enfants. L'idée, c'est de redonner du sens à la vie de tous les jours dans un contexte où c'est épouvantable, il n'y a plus rien. On n'a plus de maison, on n'a plus le droit de rentrer dans sa maison. J'ai une photo où on voit une habitante qui n'a plus rien. avec une sucette à la main en train de rigoler. C'est parce que les bénévoles sont arrivés en disant « Mais si tu prends, c'est du sucre, ça fait du bien, ça va te retaper. » Et de réinstaurer des temps de vie dans des situations où on est dans les gravats, c'est assez impressionnant de se rendre compte qu'on est capable de faire rire alors qu'on a tout perdu. Il n'y a pas de tornade d'habitude dans le Pas-de-Calais. On n'est pas à Miami. Celle-là est exceptionnelle de par son intensité et elle choque parce que justement, elle est dans un endroit où on n'imagine même pas que ce soit possible. Dans le Pas-de-Calais, les sinistres s'accélèrent depuis 2022. Je ne sais pas si c'est le réchauffement climatique, je lui donne tous les noms, mais en ce moment, oui, on est un petit peu les enfants malheureux de France. Ça, c'est la récurrence qui fait que c'est un peu compliqué. On a eu la tornade, la tempête, les inondations. L'accélération m'inquiète par l'ampleur, parce que c'est quand même surdimensionné. Mais je pense qu'il faut quand même qu'on soit prêt maintenant. Il va se passer encore des choses. On a quand même la mer, hein, et il y a des falaises qui s'effondrent. Alors, ça ne provoque pas d'accident. Mais on sait aujourd'hui qu'il y a des maisons qui sont au bord de l'eau et qui ne sont plus au bord de l'eau, elles sont au bord du ravin. La particularité du Pas-de-Calais, c'est que c'est un département très dense. Du coup, ça fait vite beaucoup de victimes, contrairement à d'autres départements où la densité de population au kilomètre carré est moins importante. Ce n'est pas notre rôle d'être inquiet parce que ce sont les collectivités qui doivent imaginer ce qu'elles peuvent faire au cas où. Nous, notre rôle, c'est d'être prêts à intervenir dans de bonnes conditions. Quand on travaille avec les communes sur le plan de sauvegarde communale et qu'on dit c'est quoi les risques de la commune, on nous dit le risque inondation, il existe, c'est le risque majeur du Pas-de-Calais. Mais celui qu'on a vécu, jamais personne n'aurait imaginé qu'on allait toucher 200 communes et 65 000 sinistrés. L'ampleur, personne l'a imaginé. Le 6 novembre 2023, on est en réunion, on a un premier coup de fil d'un maire qui nous dit « j'ai l'eau qui monte ». Du coup, on regarde un petit peu nos téléphones et on voit effectivement que ça commence à monter. Et dans la foulée, un deuxième téléphone. « Est-ce que vous pouvez nous monter un centre d'hébergement d'urgence ?» Donc on prépare le matériel prêt à partir, on prévient les bénévoles. Le timing, c'est 5 minutes. Troisième coup de fil. Après, cinquième coup de fil. Et là, il y a un problème, on a changé de rivière. On n'est plus du tout sur la première. Et j'entendais le téléphone qui continuait à sonner. Donc ça a monté très très vite. Et une heure après, une troisième rivière. Et là, on a fait non. Là, c'est juste plus possible. On est passé dans une dimension hors norme. Et ça a recommencé le 5 janvier, où toute l'eau est revenue. Mais exactement dans la même situation que la première fois. Je suis très, très sensible à la notion de catastrophe parce que derrière, les populations qui sont victimes des catastrophes vivent des chocs psychologiques complètement fous, quoi. J'ai discuté récemment avec un médecin de l'Agence régionale de santé qui disait que derrière les catastrophes, on peut avoir aussi des problèmes de santé très lourds et notamment développer des addictions parce que les gens ne se remettent pas de l'événement. Du coup, c'est la partie soins qui revient. Les victimes ont besoin de nous. Et quand le préfet me dit « Prenez soin de la population de notre territoire », ça a tout son sens. « Prenez soin », c'est parler, c'est être prêt, c'est habiller, c'est nourrir, c'est plein de choses. À la Croix-Rouge, j'ai retrouvé pratiquement les mêmes fonctions qu'à l'hôpital. Le patient devient un bénéficiaire, c'est-à-dire il a besoin de soins. Alors, le traumatisme des victimes, il est évident, mais on se rend compte qu'il faut prendre soin de soi. Les centres d'hébergement d'urgence, c'est 24 heures avec les sinistrés, le jour et la nuit. Et la fatigue fait qu'à un moment donné, on devient trop perméable à la douleur des autres et on se met en danger. Moi, personnellement, je suis sortie des inondations épuisée. Je pensais que j'étais plus solide que ça, mais j'étais trop confrontée. Je ne me suis pas du tout préservée. C'est assez compliqué à gérer. C'est très prenant. Et c'est pour ça que de temps en temps, on peut dépasser ses propres limites, parce qu'on n'a pas envie de partir. Je sais qu'on a eu des moments où on pleurait. À un moment donné, j'ai vu une bénévole pleurer, j'ai pris sa place. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on sache, nous, se reculer de la situation et laisser des personnes qui sont un petit peu moins fatiguées pour pouvoir gérer. Préserver les bénévoles, c'est devenu vraiment, vraiment prioritaire. Le résultat, c'est qu'on en sort plus fort. On parle beaucoup entre nous, parce qu'on n'a pas tous vécu les mêmes choses au même moment. Ça permet de requalifier qui étaient nos relais, qui sont ceux qui sont venus nous aider. On est tous ensemble, on n'est plus chacun chez soi. Donc ça a reconstitué énormément le maillage de ceux qui sont avec nous dans ces événements-là. Chaque événement nous fait grandir en nous disant « mais là, on n'a pas été bon du tout. Là, il faut qu'on fasse ça ». Et puis, comme on a été épaulés par 21 départements qui sont venus nous renforcer, On a vu arriver le matériel des départements, on a vu comment c'était rangé. On s'est dit, mince, c'est trop bien leur manière de préparer leur kit. Je pense que ce serait intéressant, c'est que tous les présidents qui ont vécu des situations d'exception puissent se rencontrer en se disant, qu'est-ce qui a été là où j'ai été très mauvais? Après, on sait qu'on est épaulé. Donc, je pense que les échanges de bonnes pratiques, il faut qu'on les fasse et qu'on achète le bon matériel qui va bien, facile à monter. Plus le temps va passer, plus on sera armé, plus on sera efficace et plus on ira directement là où on nous attend, c'est-à-dire proche de la population.
Vous venez d'écouter le premier épisode de la saison 4 de Clichés, un podcast produit par la Croix-Rouge française et Louis Média. Anaïs Meynier a réalisé cette interview et monté cet épisode. La production a été supervisée par Héloïse Normand, Marine Kéméré a assuré la composition musicale du générique et Nicolas Vercambre des nappes sonores. Il a également réalisé et mixé cet épisode. L'illustration est de Marie Artufel. Dans le prochain épisode, vous entendrez Philippe Mullard. Il nous racontera comment il a mis en place un vestiaire solidaire au sein de la prison de Nouméa. Vous pourrez retrouver tous les épisodes de Clichés sur les sites de la Croix-Rouge française et de Louis Média et sur toutes vos applications de podcast préférées. Vous avez envie de porter un projet près de chez vous ou en savoir plus sur les actions de la Croix-Rouge française? Rendez-vous sur le site croix-rouge.fr. À très vite !